France Inter.fr.
France Inter, c'est l'heure. Carnet de campagne, bonjour. Dernier volet de cette semaine écourté dans le département des Alpes-Maritimes. En préambule, un mot sur l'association VIVEIE, Vence Initiative Environnement, que Véronique signale dans son courrier. Née en 2006, au lendemain d'une conférence sur le changement climatique, l'association a été fondée par des habitants de Vence, soucieux du gâchis et de l'atteinte à l'environnement de nos modes de consommation. Militante du zéro déchet, elle a structuré des repères café. Elle anime des ateliers et puis elle voit sa démarche proliférer dans les communes voisines, et tant mieux. Les commerçants de la commune recommandent d'ailleurs tous, sans condition, que les clients effectuent leurs achats avec leurs propres contenants. Les boulangeries suivent la même démarche et le zéro déchet a même gagné la grande surface en périphérie de la localité. Il y a un lien pour mieux connaître cette association à nos pages d'émission. Aujourd'hui, nous nous arrêtons au forum Georges François, niché dans le sous-sol d'une église niçoise. Étrange endroit pour des actions solidaires, à lire dans les pages numériques de La Vie sous la plume de notre confrère Laurent Gibowski, a écouté avec notre invité Martin Pourbet, directeur de cet espace, et puis découverte dans le pays de grâce du remarquable tiers-lieu de la transition écologique, la coopérative Tetris, avec Anne-Cécile Dutertre.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Martin Pourbet, bonjour.
Bonjour.
Martin, vous êtes directeur du Forum Georges François. C'est un lieu étonnant. C'est une assez ancienne histoire, puisque vous êtes dans le sous-sol de l'église Saint-Pierre d'Arène à Nice, qui avait été aménagée par les prêtres de l'église dans les années 60.
Voilà. Ils étaient un peu fous à l'époque, les pères, parce qu'ils ont creusé, c'était un entresol, enfin c'était pas un entresol à l'époque, c'était un vide sanitaire. Et eux, ils ont creusé sur 1500 mètres carrés et 2 mètres de profondeur, donc vous imaginez la quantité de terre.
Oui.
Pour récupérer tous ces locaux et y faire ce qu'on a rénové aujourd'hui, c'est-à-dire un restaurant solidaire, distribution de colis alimentaires, friperie, et pour à l'époque ils avaient d'autres choses aussi, et un théâtre.
Et ça a duré 30 ans avant que ça s'achève?
Alors ils avaient effectivement fait avec des bouts de ficelle à l'époque, donc c'était la terre battue au sol, ils avaient tiré des fils électriques accrochés comme ils pouvaient, donc ça a tenu effectivement 30 ans, et puis au bout d'un moment ça devenait vraiment dangereux d'accueillir du public dans ces locaux, et donc ils ont dû fermer une grande partie de l'ensemble des 1500 mètres carrés, et n'ont gardé que la friperie et la distribution de colis alimentaires. Et puis après, le projet a été de réouvrir, donc on a fait tous les travaux pour être mis aux normes, autant à l'accessibilité handicapée que l'accueil du public dans des bonnes conditions.
Oui, et l'association est totalement laïque?
L'association, c'est l'association loi 1901, donc totalement laïque.
Parce qu'il y a toujours le caractère catholique, alors vu l'endroit où vous êtes, et puis la référence à Georges François, donc à sa sainteté, le pape.
Tout à fait. Alors, c'est une association complètement laïque, mais on travaille vraiment en partenariat avec la paroisse et le curé d'au-dessus, qui est le président, qui a l'initiative du projet. Donc on porte des valeurs, mais qui sont des valeurs communes à toutes les religions, de partage, de solidarité, de respect de son prochain, etc.
Les activités sont nombreuses. Il y a d'abord un restaurant solidaire avec des personnes en insertion, et pour savoir ce que deviennent les migrants, parfois, et réfugiés en France, ben, vous avez des réfugiés dans votre groupe de cuisiniers.
Voilà, alors en fait, le principe d'un restaurant solidaire, il est solidaire sur, j'ai envie de dire, trois points. Le premier, effectivement, c'est qu'en cuisine, ce sont des salariés en insertion, donc des gens éloignés de l'emploi, qui viennent d'horizons très différents. Nous, on les remet en selle, dans un cadre bienveillant, surtout. Et puis après, effectivement, alors, en l'occurrence, on a un réfugié syrien, on a une roumaine en cuisine, enfin voilà, de tous horizons. Ils travaillent ensemble, ils forment une équipe et ils produisent pour que le restaurant puisse servir tous les midis. Donc on est ouvert du lundi au vendredi midi. Un menu unique, cuisiné frais sur place.
Oui. Alors, il y a aussi une friperie, une épicerie sociale, une salle de spectacle, une salle polyvalente, une salle d'exposition. Mais je remarque que le principe, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on profite des services que vous proposez, puis en échange, on peut donner aux autres. C'est-à-dire que sur un certain nombre de repas, il y a des repas qui sont desservis à des personnes et réservés à des personnes démunies.
Tout à fait. Voilà, le deuxième principe solidaire de ce restaurant, c'est un peu le système des cafés suspendus,
oui.
Qui a émergé à Naples il y a de nombreuses années. Alors nous, on fait des repas suspendus. La différence, c'est qu'on peut pas faire un repas payé pour un repas gratuit parce que c'est pas les mêmes charges. Mais c'est tous les 6 repas vendus, on en génère un gratuit, donc qui est donné à une association qui nous envoie un bénéficiaire. Et ce qui est très important, c'est que ce bénéficiaire vient manger la même chose au même moment et au même endroit que les clients normaux, mais personne ne sait qui est qui.
Et dans la présentation de ce grand forum, qui est un vraiment très bel espace, vous donnez aussi, vous transmettez un constat, c'est qu'il y a une population niçoise dans certains quartiers, même celui-ci proche de la promenade des Anglais, qui se précarise.
Effectivement, il y a une population qui s'est précarisée. Alors ça, on le voit notamment par des personnes qui, il y a quelques années, faisaient des dons aux associations et qui aujourd'hui vont plutôt venir chercher des colis alimentaires, notre épicerie sociale. Et puis on voit aussi qu'on a beaucoup de personnes au restaurant solidaire qui viennent manger, donc c'est plutôt des personnes âgées isolées, qui viennent manger et qui viennent manger pour deux choses. Un, c'est rompre leur isolement, on sent qu'on est un peu les seules personnes qu'elles voient et à qui elles parlent dans la journée, donc ça c'est super parce que voilà, elles se sentent reconnues, accueillies. Et je pense que pour certaines, c'est le seul repas chaud qu'elles se font de la journée parce qu'elles peuvent plus ou elles ne veulent plus cuisiner seules chez eux.
Combien de personnes passent par le forum chaque jour? Vous avez un ordre d'idée, non?
Alors sur le restaurant, c'est une centaine tous les midis. Sur l'épicerie sociale, on aide à peu près 50 à 60 familles donc qui sont servies. Donc après, de 50 à 60 familles, ça représente 150 personnes environ. Et la friperie, là où les gens peuvent venir se rhabiller, c'est en moyenne, on est ouvert 4 demi-journées par semaine, et c'est en moyenne 60-70 personnes par demi-journée.
Alors l'association créée en 2012, aujourd'hui, les chiffres, 70 bénévoles, 14 salariés.
Tout à fait.
Et surtout, pas de subvention.
Et pas de subvention. On a eu une subvention au démarrage de la ville de Nice et du conseil départemental parce qu'il fallait donner l'impulsion à ce projet. Mais on s'était engagé auprès du maire et du président du conseil départemental à viser l'autofinancement. Et on est en passe d'y arriver. Cette année, on est sans subvention et on s'autofinance complètement.
Ouais. Un espace de rassemblement, d'échange, un véritable lieu de vie pour et par les habitants, le Forum Georges-François à Nice. Il y a un site internet, forumgeorgesfrançois, que vous allez avoir, .fr, et puis aussi une page Facebook.
Tout à fait. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site internet l'agenda de la programmation culturelle, parce qu'on a aussi une programmation au théâtre qui est très variée, avec autant des conférences que des concerts, que des pièces de théâtre, des one-man shows, enfin un peu de tout, des prix raisonnables et c'est une très belle salle aussi qui fait 150 places.
Ouais, à commencer par le chapeau de paille de la biche le 13 mai.
Tout à fait.
Merci Martin.
Merci beaucoup.
Gâtières, commune de 4000 habitants perchée dans l'arrière-pays niçois, vit depuis 30 ans au rythme et harmonie de l'art lyrique. Le décor est à l'image du village, une place publique à laquelle on accède en empruntant des marches étroites et puis une scène sur fond de vieilles pierres qui reçoit des artistes amateurs et des artistes professionnels. Certains d'ailleurs viennent de très loin, d'outre-Atlantique. Les musiciens proviennent pour la plupart du Conservatoire National de Région, soit un total d'une soixantaine de personnes pour donner cette année la Traviata de Verdi après le Barbier de Séville monté l'année dernière. L'association organisatrice de ce festival d'art lyrique de proximité s'appelle Opus Opéra. Si le résultat du travail fourni tout au long de l'année est excellent, c'est que l'association s'emploie à faciliter la compréhension des œuvres par un public non averti. Dans certaines créations, par exemple, une partie des livrets peut être jouée et non chantée afin de rendre plus accessible le contexte de l'œuvre. Les artisans de la commune participent aussi au montage technique artistique du festival. Et puis, un peu plus exigeant quand même, sont les ateliers d'art lyrique qui prennent place à Gâtières durant 2 semaines en juillet, puisqu'il s'adresse aux jeunes professionnels et aux choristes amateurs éclairés. Ce festival est né d'un coup de cœur et d'une rencontre, coup de cœur d'un visiteur franco-suédois proche de l'opéra et de sa rencontre avec le maire de l'époque qui était baryton amateur. La Traviata sera donnée les 15, 16, 18 et 19 juillet à Gâtières. opus-opéra.com pour l'adresse. Anne-Cécile Dutertre, bonjour.
Bonjour.
Anne-Cécile, merci pour votre courrier. Avec vous, on va présenter Tetris, qui est une société coopérative, une SIC d'intérêt collectif. Si je traduis Tetris, donc transition écologique territoriale par la recherche et l'innovation sociale, fin de citation. Tetris à Grasse est d'abord le tiers-lieu de la transition écologique.
Voilà, exactement. Donc Tetris, en fait, va rassembler plusieurs structures, des associations, des chantiers d'insertion et même la collectivité locale, qui est en fait la communauté d'agglomération du Pays de Grasse.
Oui.
Et on va essayer de travailler ensemble autour de la transition écologique territoriale, en fait le développement local durable, au travers de projets donc déjà portés par chacune des structures, mais aussi de projets qu'on va essayer de réaliser ensemble dans le cadre de Tetris.
Alors, les exemples d'associations qui sont abritées par Tetris?
Alors déjà, je peux vous parler de l'association Valeco, qui est née en 2008, qui est une association qui a été lancée par des lycéens,
ouais.
Qui avaient envie de passer à l'action, en fait, au niveau du développement durable. Aujourd'hui, donc, l'association Valeco fait de l'éducation populaire au développement durable et propose plein d'ateliers, en fait, qui sont accessibles au public autour du développement durable, mais vraiment au sens large, en fait. Donc on va avoir énormément de projets, donc par exemple comme des projets autour des jardins partagés, autour d'un Fab Lab, mais aussi des projets pour revitaliser par exemple le centre-ville historique de Grasse.
Mmh. Alors je retiens dans Tetris, parce que je l'ai cité expressément, la recherche et l'innovation sociale. Comment vous faites entrer la recherche dans cette maison coopérative, collaborative ?
En fait, la recherche, elle va être au cœur de toutes les activités. L'idée, c'est de pas faire la recherche juste en observation. On va parler pas de chercheurs, mais de chercheurs acteurs.
Mmh.
Et ça permet, en fait, de pouvoir, en fait, faire remonter des questions sur les activités de terrain qui vont être traitées par le centre de recherche, mais aussi grâce au réseau de chercheurs qui a été tissé au fur et à mesure. Et c'est cette idée, voilà, de pouvoir faire participer plein de types de chercheurs, qu'il puisse y avoir un véritable aller-retour entre ce qui est produit au niveau de la recherche et ce qui se passe directement sur le terrain.
Mmh.
Et c'est vraiment sur cette approche-là, donc qu'on retrouve dans la définition du développement durable aussi, qu'on essaie de pousser dans toutes les activités qu'on va porter, par exemple au sein des Valeco, mais aussi du Ripper Café, ou bien d'autres structures comme le réseau Teddy ou bien APES qui porte une monnaie locale complémentaire.
Ouais.
À chaque fois, on va mettre cette idée d'avoir des possibilités réelles de faire et tout un accompagnement pour que chacun puisse faire ses propres choix.
Oui. Anne-Cécile, une explication, donc vous avez parlé du centre de recherche, un centre de recherche appliqué en sciences économiques et sociales. Vous avez pris contact comment avec lui? Il est de la région?
En fait, la recherche était à la base portée par l'association Valeco, qui est une des premières associations qui ont commencé à lancer le projet de Tetris. Et l'idée, c'était de pouvoir... ce centre de recherche a été transféré à Tetris, donc il fait partie de la façon de faire, de la façon d'imaginer les choses. Et c'est avec cette recherche qui a été faite en lien notamment avec l'Institut Gaudin à Amiens, en Picardie, qu'on peut justement réfléchir à tout ce qui est autour de l'innovation sociale et comment on peut l'appliquer sur le terrain.
Alors, centre de recherche, d'un côté, espace de mutualisation de coopération, et on n'a pas parlé de l'incubateur de projets de Tetris. C'est-à-dire que moi, j'ai une bonne idée qui va dans le sens du développement durable, je vais à Tetris, et là, je vais être aidé, conseillé.
Alors, aider, conseiller, accompagner, il va y avoir des formations, des temps collectifs.
Ouais.
L'idée, vraiment, c'est de faire remonter l'intelligence collective et de proposer plein d'outils, en fait, à ces porteurs de projets. Donc, par exemple, on va effectivement voir une approche beaucoup plus large du développement durable. Et après, il y a aussi tout ce qu'on appelle les pratiques de solidarisation. En fait, les structures de l'économie sociale et solidaire sont très souvent porteuses de grands principes, comme par exemple le lien social, différentes façons de faire qui vont faire que effectivement collectivement on est sur des bonnes pratiques qui peuvent être porteuses d'une nouvelle façon de faire même au sein de l'économie en fait.
Mmh. Donc il y a des solistes et Tetris est un chef d'orchestre.
Voilà, on peut dire ça comme ça.
Ouais. SIC Tetris, pour le site, c'est sic-tetris.org, SIC, SCIC, hein, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, SIC Tetris également pour la page Facebook à Grasse. Merci Anne-Cécile.
Merci beaucoup.
Benoît est chercheur au CNRS et co-président d'Apis Campis sur le campus de Nice Sophia Antipolis, association qui a installé un rucher pédagogique qui fait de la grande communication près du public sur le rôle des abeilles et leur rôle fondamental dans la pollinisation, qui sensibilise la jeunesse et familiarise les plus jeunes aux abeilles en participant à l'initiation de projets pédagogiques, qui protège aussi en l'ensemble de la recherche scientifique dans les domaines de lutte contre les maladies et qui forme le plus grand nombre à la apiculture biologique urbaine et à la récupération des colonies sauvages s'appelle Apis Campus, apiscampus.unis.fr. Merci à Juliette Hogou qui réalise les carnets, à Joël Levert qui en donne du contenu, aux techniciens et techniciennes de France Inter qui leur apportent du volume et du son comme aujourd'hui, Juliette Delperroux.